Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
L'histoire se passe à Vieux-Ferrette, dans le Haut-Rhin, vendredi 4 mars, vers 6h30 du matin. Ce jour-là, Hubert Dietlin, 58 ans, un chef d'entreprise alsacien du BTP, s'immole par le feu dans la cour de sa société. Son neveu, qui habite au-dessus de l'entreprise, alerté par les flammes, essaie d'abord d'éteindre le feu avec une couverture, mais il ne réussit pas. Puis les pompiers, à leur tour, tentent de ranimer l'homme qui succombe à ses brûlures. D'après le magistrat chargé de l'affaire, l'entreprise connaissait de sérieuses difficultés financières. Le patron avait eu la veille un rendez-vous avec son banquier pour solliciter des prêts qui n'auraient d'ailleurs pas été refusés. Il ne respirait pas la joie, mais je ne pensais pas que c'était à ce point-là, a indiqué une habitante de Vieux-Ferrette au micro de France 3 Régions. En 2014, sa société, spécialisée dans l'assainissement, le terrassement et l'eau potable, et surtout l'entretien des réseaux d'eau du sud de l'Alsace, avait bien affiché des pertes de près de 300 000 euros. Mais elle semblait depuis avoir remonté la pente et être parvenue à l'équilibre en 2015. Du moins, c'est ce qu'a expliqué le responsable administratif et financier à l'AFP. Il avait cependant fallu se séparer d'une bonne dizaine de salariés. Cette entreprise, qui employait une quarantaine de personnes, n'en comptait plus alors que 28. Aujourd'hui, dans Les Pieds sur Terre, deux autres histoires de patrons d'entreprise qui ne sont pas allés jusque-là, mais peu s'en faut. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, nous nous intéressons à la souffrance patronale qui, d'après les spécialistes, commence avec 3D, dépôt de bilan, dépression, divorce. Jusqu'à 14h dans Les Pieds sur Terre, la dure vie des petits patrons, un reportage de Sophie Knapp.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
J'étais cadre dans différents secteurs d'activité, la banque, la finance et l'industrie. Et c'est en voulant poursuivre un petit peu mes études qu'à l'occasion d'un quatrième cycle aux États-Unis, je suis revenu des États-Unis avec le sentiment qu'il fallait que j'entreprenne quelque chose. Voilà. Donc c'est à partir de ce moment-là que la fibre entrepreneuriale s'est révélée et que j'ai spontanément créé une entreprise sur une idée que j'avais ramenée des États-Unis qui n'était pas mature à l'époque dans la culture française. L'idée du couponing aux États-Unis faisait fureur et j'adorais, quand j'étais aux États-Unis, avoir mes coupons de réduction et aller faire mes achats dans tous les commerces, y compris dîner au restaurant, et dîner à deux, payer pour un, quoi. Voilà. Et je trouvais qu'en France, ça pouvait être appliqué. Ça, c'était en 92-93. La suite de ça, c'est que les idées venant, j'étais un petit peu lié au monde de la communication et j'ai créé une entreprise pour faire de l'édition publicitaire, de l'événementiel. Alors, nous étions une toute petite dizaine et à partir de là, il se pose toujours une question à un moment donné dans le développement d'une entreprise pour un dirigeant. C'est, est-ce que je continue à vivre dans l'environnement qui est le mien, avec les compétences qui sont réunies, ou est-ce que je passe à l'étape suivante, développer, faire éventuellement des investissements et faire grandir l'entreprise, l'équipe, et aller chercher de nouveaux clients, de nouveaux marchés. Donc cette question s'est posée en 2004. Nous identifions une entreprise de formation à la communication, une cible qui potentiellement peut nous amener de nouveaux clients. Alors, il se trouve que l'un des associés nous fait entrer en communication avec ses dirigeants et que nous décidons de nous engager dans son rachat. Ce rachat nécessitait pour le coup un financement extérieur, financement que nous avons eu à travers les banques, et les banques nous imposent de conserver les dirigeants de l'entreprise rachetée parce que pour eux, ils possédaient le savoir et l'antériorité de l'entreprise. Donc nous rachetons cette entreprise, on l'intègre dans un groupe en mettant une holding, je gère la holding et je prends la direction de cette entreprise. Donc c'était le début d'une nouvelle aventure. Thank you. à partir de là, je découvre une entreprise qui arrive en fin de cycle, c'est-à-dire qu'elle doit se réinventer. Je découvre aussi la complexité de l'équipe dirigeante précédente et les difficultés qui vont être les miennes de travailler avec eux. Voilà. Et je comprends que ce rachat s'est fait aussi parce que probablement qu'ils ont vu en moi, j'ose le mot, hein, le pigeon capable de payer leur entreprise assez cher et de continuer à faire ce qu'ils voulaient. Voilà. C'est-à-dire que vous avez une équipe dirigeante passée qui ne veut pas évoluer. Et vous avez des associés en fait qui arrivent avec une idée de développement et une idée d'un maillage des compétences différents. Donc c'est la confrontation d'individus, de personnalités, qui vont faire que la mayonnaise ne va pas prendre. Et à partir de là, ça devient difficile à gérer. C'est-à-dire que vous n'avez pas tous les chiffres, vous en demandez, la rencontre avec les clients vous fait comprendre qu'il y a urgence. Et puis quand vous prenez une entreprise, effectivement, il y a des jeux de pouvoir qui existent déjà. Vous avez au sein d'une structure existante des affinités qui existent et des inimitiés qui sont parfois assez fortes. Donc ces ressentis, vous ne les avez pas immédiatement. Donc gérer tout ça, ce n'est pas possible au début. Ne pas s'en occuper, c'est suicidaire, mais tout vient au fur et à mesure. C'est-à-dire que la découverte de toutes ces relations, elle se fait au fil du temps. Donc vous tentez d'imposer une patte selon votre personnalité, votre manière d'agir, d'être avec les autres, mais tout le monde n'est pas réceptif à ça. Donc le mouvement n'était pas aussi dynamique qu'il aurait pu l'être, donc au fur et à mesure, on a quand même commencé à perdre un ou deux clients. Mais contre vents et marées, j'arrive à transformer l'entreprise. J'ai donc, à cette époque, mis à la retraite, parce qu'il arrive à l'âge de la retraite, l'ancien directeur général, président directeur général de la structure que j'avais gardée contre vents et marées. Et ça m'a coûté 30% du chiffre d'affaires parce qu'il était très, 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 très lié de façon personnelle et amicale avec le principal client de l'entreprise. Donc, j'ai perdu 30% de mon chiffre d'affaires sur deux coups de fil en 2 heures. Voilà. Ça fait mal, je peux vous le dire. Et après, il y a des accidents dans les entreprises. Un impayé important qui arrive dans le groupe, donc qui met en difficulté l'équilibre, plus 30% du chiffre d'affaires perdu du jour au lendemain. Et là, on remet en perspective un certain nombre d'objectifs qui sont à réviser. Il y a une forte idée de responsabilité qui est chevillée au corps d'un entrepreneur et d'un chef d'entreprise. L'investissement intellectuel est important, l'investissement physique aussi est important, parce qu'il faut trouver des plages de repos et des plages de récupération, et vous n'en avez pas nécessairement. Vous considérez en tant que chef d'entreprise que c'est votre rôle de régler les problèmes, de trouver les solutions. Et puis la fatigue physique aidant, il y a la fatigue psychologique qui arrive. Surtout quand vous vous heurtez systématiquement à des refus, à une vision différente, à des oppositions de personnes. Le chef d'entreprise se fragilise. Et je me suis fragilisé à un tel point que j'ai commencé à couper en fait l'écoute de certains collaborateurs. Et partant de là, j'étais entré dans une spirale plutôt descendante. C'est-à-dire que je continuais à arriver très tôt le matin, à partir très tard le soir, mais j'étais un zombie. J'étais en burn-out total. Je n'avais plus la capacité à prendre une décision, je n'avais plus la capacité à réfléchir, je ne faisais que subir. Et là, nous sommes en 2008. Donc, ce qui se passe effectivement en 2008, c'est que tout le monde parle d'une crise bancaire, c'est surtout une crise de confiance dans les entreprises. Le premier budget qui est coupé, ce sont les budgets de communication, ce sont les budgets d'information, c'est tout ce qui apparaît comme superflu, ou pas nécessaire. Voilà. Et là, vous avez énormément d'entreprises de ce secteur qui, à cette époque, ont connu d'énormes difficultés. Et je n'ai pas tenu. Voilà. Donc, je n'avais plus de ressources nécessaires pour faire face à un nouveau front. Et donc, j'ai décidé de tout arrêter. Je me rappelle très bien, c'était un lundi matin, j'ai dit, allez, j'arrête tout. Vous voyez l'image, vous avez un dossier, vous ne le comprenez plus. Je plie tout ça, je ferme tout ça, je mets ça à la corbeille, et je dis, advienne que pourra. Donc je me suis résigné à passer au tribunal de commerce et détruire en une journée ce que j'avais mis 5 ans à construire. Il a été décidé de la liquidation de cette entreprise. Voilà, vous perdez votre entreprise. Entre ce moment-là et la date à laquelle vous recevez un document disant « je, vous n'êtes plus propriétaire et tous les comptes ont été réglés, soldés, tout », il se passe environ 18 mois. Donc c'est une longueur extrême. En même temps, il se trouve que j'étais caution personnelle dans cette entreprise, que j'avais les huissiers, au moins une fois par semaine, qui venaient sonner à la porte, parce que les banques voulaient récupérer leur caution personnelle. Donc vous avez les procédures judiciaires, toujours au tribunal de commerce, par les banques pour récupérer leur caution. Vous avez les liens avec le mandataire liquidateur. Donc vous êtes dans une spirale administrative dont vous ne connaissez pas les codes, qui vous enferme dans un état de victime total. Psychologiquement, c'est très difficile à vivre. Faire son deuil de ce genre de situation, c'est très très long. J'étais typique le dirigeant qui a tout donné, qui ne peut plus rien donner, qui a encore envie de donner, mais qui ne sait plus comment le faire. Alors, socialement, quand vous échouez, vous êtes pointé du doigt. Voilà. Vous êtes pointé du doigt parce que du jour au lendemain, vous perdez votre environnement social qui est souvent lié à l'entreprise. C'est l'isolement. C'est vraiment l'isolement, perte de ressources, très rapide. Énormément de gens vous tournent le dos. Mon environnement familial, il était en vrac. Et donc vous vous retrouvez très 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 seul. Voilà. Les personnes qui sont restées autour de moi pour vraiment pouvoir me soutenir, je les compte sur les doigts d'une demi-main. Donc c'est très 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 difficile à vivre. Vous plongez quoi, vous plongez. Voilà, j'avais 50 ans. À l'époque, et ces 50 ans, vous êtes dans une période où normalement vous êtes en phase de ne plus avoir à produire, mais de profiter de ce que vous avez produit. Sauf que quand ça vous arrive, je peux vous dire qu'il faut repartir à zéro. Alors vous faites toutes les démarches que vous voulez. Vous allez vous inscrire à Pôle emploi. Pôle emploi, on vous dit, mais monsieur, vous étiez dirigeant, vous n'avez droit à rien, qu'est-ce que vous cherchez ? Ben, je sais faire ça, ça. Ah ben oui, mais à votre âge, ça va pas être possible. Et puis, rentrer dans une entreprise en étant dirigeant, ça va faire peur aux personnes qui vont être en face de vous. Vous allez les effrayer. Je voulais prouver à moi-même, et je voulais aussi prouver aux autres que je n'étais pas fini, que ce n'était qu'un échec, certes, mais qu'il n'y avait pas de faute qui avait amené à cet échec. Et que toutes les compétences que j'avais, non seulement elles existaient, mais elles s'étaient multipliées parce que j'avais vu les conséquences de cet échec. Et voilà. Aujourd'hui, je crois que j'ai à peu près fait quasiment toutes les erreurs qu'un chef d'entreprise peut faire. Mais ça fait peur. Ça fait peur. Donc, vous vous retrouvez, si vous voulez, vraiment en décalage totalement avec la société au sens large du terme. Après, se reconstruire dans cette situation-là, c'est très, très, très délicat. Un jour, j'ai été capable de me poser cette question. Quelle est ma part de responsabilité dans tout ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce que j'avais fait? Et c'est cette question, en fait, qui a tout changé à un moment ou à un autre. Et à partir de là, quand vous reconstruisez l'être humain, vous pouvez reconstruire le chef d'entreprise. C'était un moyen de prendre conscience que le t-shirt que les autres me voyaient porter avec pigeon dans le dos quand j'avais racheté cette boîte, je l'avais peut-être inconsciemment porté.
Donc aujourd'hui, quel est votre statut?
Alors aujourd'hui, je suis associé dans une structure où je ne fais que la stratégie, où je ne fais plus d'opérationnel, mais ça me plaît, la stratégie me plaît, et je suis par ailleurs consultant indépendant et je fais du coaching, de la résolution de conflits. Je fais beaucoup et j'adore ça parce que ça fait du sens pour moi de la gestion de crise et notamment de la gestion de crise humaine dans les entreprises. Aujourd'hui, je sais expliquer quel a été mon parcours en intégrant cet échec, alors que pendant longtemps, j'excluais cet échec. Voilà. Parce que dire que l'on a échoué d'une façon ou d'une autre est toujours mal perçu. Surtout si on ne porte pas l'expression du rebond. Mais dès lors que vous portez l'expression du rebond, ça veut dire que vous avez traversé ça et que vous êtes encore beaucoup plus fort pour rebondir et aller de l'avant. J'ai 57 ans aujourd'hui et je peux vous dire que j'ai deux projets dans les cartons qui verront, je pense, le jour. Voilà. Mais j'adorerais le faire avec des jeunes entrepreneurs. Ça ferait du sens.
France Culture, les pieds sur terre.
Voilà, vous arrivez dans le dépôt où il y a pas mal de marchandises. Toute cette marchandise est à livrer et à monter chez les clients. Nous, on est prestataire de services dans le mobilier de bureau, surtout, disons, principalement dans l'agencement de mobilier de bureau. Je reçois du mobilier des fournisseurs à mon dépôt et c'est nous, on les reprend dans des petits camions et là, on fait de la livraison et installation du mobilier chez les clients. Voilà comment ça s'organise.
Et donc, vous êtes combien ?
Avec moi, on est 5. J'ai arrêté l'école à l'âge de 16 ans. J'ai travaillé d'abord en pharmacie pour essayer d'être préparatrice en pharmacie. Mais le problème, c'est que il n'y avait pas de place en école, donc j'ai vite arrêté, que des cours par correspondance. Et après, je suis rentrée dans une société où on était revendeur en fourniture machine et mobilier de bureau. Et j'étais secrétaire de la personne qui s'occupait du mobilier de bureau principalement. Donc, fin 2012, j'ai voulu créer ma société et ça s'est mis en route à partir de fin 2012. Donc, je suis chef d'entreprise toute seule. Mon mari, lui, il est salarié de l'entreprise. C'est moi qui ai tous les pouvoirs. Au début, on a eu les clients, les fournisseurs. Les fournisseurs, ils connaissaient notre travail, notre sérieux et tout. Et puis après, petit à petit, de bouche en bouche, il y a eu des clients. Voilà. Et puis à une année, vous savez comment ça se passe avec les clients. Tout va très bien 10 fois, 15 fois. Une erreur et puis après, ils partent ailleurs. Une erreur et ça suffit. Donc effectivement, il y a 2 ans à peu près, j'ai perdu un gros client et ce qui a perturbé un peu la comptabilité. Donc grosse perte de chiffre d'affaires. Et puis quand c'est comme ça, ce qui est à payer reste toujours à payer. Et la banque, dans ces moments-là, elle ne vous suit pas du tout. On ne vous aide pas dans ces moments-là. Donc, je n'arrive pas à payer principalement l'URSSAF, qui est énorme au niveau du budget quand même. Pour tout vous dire, on est à peu près, en gros, 10 000 euros de salaire à peu près. Et j'ai tous les mois 6 100 euros d'URSSAF à payer tous les mois, quel que soit le chiffre d'affaires, puisque c'est selon les salaires. Donc, j'ai déjà reçu des lettres de huissier en disant que fallait payer, sinon ils nous mettaient au tribunal. Bon, les lettres de huissier, j'essaie de répondre le plus mieux que je peux. Et puis un jour, le tribunal nous envoie une convocation, comme quoi vous êtes convoqué au tribunal pour le règlement de l'URSSAF. La première fois, j'ai eu très très peur. Donc tout de suite, j'ai recontacté l'URSSAF pour pouvoir m'arranger avec eux. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il vaut mieux faire. Donc quand j'ai pris mon rendez-vous à l'URSSAF, j'ai donné mon numéro d'URSSAF, le pourquoi je venais les voir. Et en plus, c'est toujours la même personne qui s'occupe de mon dossier. Donc quand je me suis présentée mercredi dernier, je suppose qu'ils avaient pu étudier mon dossier avant de me recevoir, étant donné qu'ils avaient mon numéro d'URSSAF
et la raison pour laquelle je venais voir. Je suis arrivée, était 15h30 à mon rendez-vous. Le monsieur m'a très bien reçu, lui par contre, mais me disant « Ah ben voilà, vous revenez pour encore le problème des règlements et tout ». Ben je dis « Oui, vous le savez, très bien, de toute façon je reviens toujours pour le même problème, pour essayer de voir maintenant si on peut échelonner sur une année le règlement et tout ». Ah ouais, ouais, mais j'ai plus de responsable. Effectivement, il a saisi deux postes et à 15h30, il n'y a plus de responsable pour prendre les responsabilités. Voilà. Et puis bon, bah, je me suis retrouvée donc encore au tribunal à demander un report d'audience. Et c'est quand même des heures que je passe soit au tribunal ou à l'URSSAF. Et puis c'est pas à côté, donc bah, c'est du temps de perdu pour ma société. Et moi, ça me met en rage parce que bon, pendant ce temps-là, bah, le travail ne se fait pas. Donc je suis obligée soit de garder une personne avec moi qui est censée faire des livraisons, qui prend ma place, ou alors ben, je ferme carrément la société et pendant ce temps-là, ben, ni les clients, ni les réceptions de colis ne se font. Ben, ma banque, l'année dernière, on s'était entrevu avec mon conseiller, devait me donner une réponse justement pour mes droits de découvert, des choses comme ça. J'attends encore un an après sa réponse. Là, je lui ai déposé un bilan cette année, comme je fais tous les ans. Il m'a d'ailleurs fait le retour du bilan en me disant qu'il l'avait bien enregistré. Je lui ai envoyé un mail pour qu'on puisse se voir pour redemander éventuellement encore un découvert et puis peut-être même éventuellement faire l'achat de camions, parce que mes camions commencent à être vieux. Et j'ai toujours pas de réponse. Donc j'ai l'impression que je sais pas. J'ai l'impression de travailler avec des fantômes. Voilà, tout simplement. Et même des fois, certains clients que moi je contacte systématiquement par mail et tout pour organiser des livraisons et tout, des fois, bah c'est pareil. J'ai pas de réponse. L'impression qu'ils sont toujours en vacances. Je sais pas. Puis bon, si je les relance beaucoup de trop, eh ben ils vont dire, ben on va voir ailleurs. Puis voilà, c'est cette mentalité-là maintenant, les clients aussi un petit peu.
Allô ? Allô ? Oh.
Je me bats, mais bon, c'est vrai que des fois, ben, j'ai pas trop le moral et j'ai envie de baisser les bras aussi un petit peu parce que je me fatigue. On prend que 15 jours de vacances par année, c'est tout. Je travaille dur parce qu'on travaille du lundi au vendredi et je suis là à 8h et jusqu'à 19-20h au bureau. Je fais la comptabilité, je décharge les camions et tout, alors que je pourrais en rembaucher au moins deux personnes et prendre un camion. Mais avec les charges, je ne peux pas, c'est trop élevé. Moi, toutes les aides que le gouvernement fait, moi, ça ne nous concerne pas parce que les primes d'embauche, moi, si je prends une personne puis que j'ai 2 ou 3 000 euros, c'est pas ça qui va me permettre de lui payer son salaire et toutes les restants des charges jusqu'à X temps. Tandis que les grosses sociétés, bon, ils prennent les 2 ou 3 000 euros. Imaginez si ils emploient 10, 20 personnes, ça fait quand même un certain chiffre. Et puis, bon, au bout de 3 mois, 6 mois, 1 an, après, ben, c'est la porte et puis c'est tout. Hein, mais moi, c'est pas mon but, c'est pas ce que j'envisage. Moi, quand je prends une personne, c'est pour la garder le plus longtemps possible. Ce qu'il faudrait, moi, au niveau du gouvernement, c'est comme toutes les PME, ce qu'on réclame, c'est baisse de charges tout simplement. Rien que ça, et on pourrait rembaucher. Puis bon, là, pour la société, j'ai quand même mis de l'argent personnel. Donc, ce qui fait un petit peu mal aussi, c'est que on se bat, on a mis de l'argent, on travaille. Et puis, s'il n'y a pas de résultat après, je ne pourrais déjà pas récupérer mon argent personnel. Donc, bon, bah, ça m'embête quand même un petit peu parce que bon, on avait quand même un petit peu d'argent. Et puis là, bah, on va se retrouver sans rien. Il y a trois ans, j'ai vendu le pavillon parce que je voyais que les dettes s'accumulaient. Hein, donc j'ai dit, il vaut mieux peut-être se séparer du pavillon, avoir un petit peu d'argent pour essayer de repartir encore à nouveau. En plus, on l'avait pris sur 15 ans, il nous en restait plus que 3 ans à payer, donc c'était un peu dur. Mais bon, il fallait prendre cette décision, sinon on se retrouvait sans rien. C'est la catastrophe si la société se casse la figure parce que moi, j'ai pas le droit au chômage. J'ai le droit strictement à rien, pas d'indemnité de d'épargne, rien. Donc, du jour au lendemain, je me retrouve sans salaire. Moi, tout ce que j'ai à payer, je pourrais pas le payer.
Bonjour.
Des fois, je préférais être salarié que d'être patron. Hein. Parce que ben, déjà, bon, on a le salaire à peu près tous les mois qui tombe, je suppose. Et puis, ben, pas de soucis. Hein, juste à travailler, point barre. Et puis, ben, les soucis, ben, on rentre le soir chez vous et on dort tranquille. C'est vrai que là, bon, j'ai eu une ou deux propositions en tant que salarié de fait. Ben, je réfléchis en deux fois avant de dire oui ou non, parce que je me dis qu'est-ce que va devenir la société si on n'a pas plus d'aide que ça. C'est sûr, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent bon, allez hop, on dépose le bilan, c'est tellement facile, recréer autre chose et tout. Mais bon, là, nous, on a des exigences et je me permets pas de dire tiens, je vais déposer le bilan, je me fous du personnel et tout. Non, je suis pas dans ce principe-là. Je suis encore là, peut-être la vieille école, en disant bon, bah, je tiens à des personnes et à mon travail et aux clients, et puis voilà. D'ailleurs, je pense que c'est ce qui me permet de tenir, c'est l'amour de mon travail. Je veux dire, je vais faire des heures et tout, je regarde pas les heures et tout, pour faire le travail. Et j'essaie de me battre, mais bon, jusqu'au jour où, bon, bah, peut-être que ma santé ne le suivra pas non plus, hein, peut-être, hein, mais bon, je me serais battue.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre et la dure vie des petits patrons, un reportage de Sophie Knapp, réalisé par Emmanuel Geoffroy. L'attachée de production, c'est Sandrine Chaperon. Notre stagiaire, c'est Nathalie Hérault. Merci aux patrons qui ont bien voulu accepter de nous parler. Vos commentaires, c'est sur notre site. Partagez nos émissions, c'est sur les réseaux sociaux. Et pour nous podcaster, il faut aller sur iTunes ou bien sur Podcast Addict.